RCF.
Le 26 mai dernier, lors de son synode annuel, l'Église protestante unie de France vous a élu à sa tête pour 4 ans. Emmanuel Sebold, bonjour.
Bonjour.
C'est la première fois qu'une femme occupe cette responsabilité. Ça a fait l'objet d'un grand nombre d'articles, de papiers ou d'interviews dans la presse. Vous êtes né en 1970 dans l'Hérault. Vous êtes pasteur de l'Église réformée de France depuis 1994. Vous êtes marié, mère de famille. Vous êtes né dans une famille protestante, Emmanuel Sebold. Je crois savoir
oui,
que vous dites
fait.
Que vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite.
Absolument.
Mais j'aimerais quand même savoir à quel moment la question de Dieu s'est posée pour vous, à titre vraiment personnel, individuel.
Elle s'est posée très très tôt pour moi, puisque vers 6-7 ans, je me suis tournée vers Dieu, voilà, je peux le dire comme ça, parce que le monde que je voyais autour de moi, les injustices que j'avais sous les yeux dans les familles autour de moi, les vies de mes copines, c'était compliqué. Et pour moi, enfant, ça n'était supportable que si Dieu était présent.
Qu'est-ce qui était compliqué ? La vie ?
Oui, c'était oui, la vie, des maladies, des morts, des voilà. Je pense souvent à cette copine d'école maternelle et primaire, dont la maman était morte d'un cancer, qui était seule avec son papa. Le papa avait eu un accident de travail, et puis il avait été licencié suite à l'accident de travail. Enfin voilà, des choses qui étaient vraiment tragiques. Et je me disais, étant enfant, s'il n'y a rien que cette vie-là, c'est impossible, c'est insupportable. S'il n'y a rien d'autre, et si on est obligé de traverser cette vie avec ses injustices, ses souffrances, et qu'il n'y a rien d'autre, c'est pas possible.
Ça veut dire que vous avez fait le choix de Dieu ?
Oui, absolument, j'ai fait le choix de Dieu, je me souviens très consciemment, où j'ai dit à Dieu, je te choisis comme mon père, parce que seule ta présence me console de ce monde.
Ça veut dire que c'était un choix raisonné, raisonnable.
Oui, c'était un choix raisonnable et c'était un choix qui me donnait une autre perspective de vie. Voilà.
Mais est-ce que plus tard, à un moment donné, quelque chose qui n'était plus cette fois de l'ordre de l'intellect et de la raison a surgi en vous comme une espèce d'évidence. Quelquefois, vous savez, on parle de ces conversions presque un peu spectaculaires qui bouleversent une vie. Ça vous est arrivé ?
Alors, c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un choix raisonnable, tel que je le raconte. Mais c'était aussi s'abandonner, trouver un lieu de confiance, trouver un lieu de secours. Et là, c'est pas de l'ordre de la raison. C'était vraiment de l'ordre du refuge que j'ai mis en mots, mais qui était de l'ordre vraiment émotionnel, quoi, du lieu où on se réfugie pour être à l'abri.
Qu'est-ce que c'était cette famille protestante dans laquelle vous avez vécu ? Qu'est-ce qui dominait sur le plan des relations humaines, dans la manière de vivre sa foi protestante ?
Alors. Dans ma famille, la foi se transmet par la musique. En fait, mes parents, sans être musiciens professionnels, étaient des amateurs qui aimaient beaucoup la musique. Et mon père dirigeait des chorales dans la paroisse. Et cette foi se disait par le chant. Par les cantiques, par voilà tout ce qu'on pouvait au niveau musical exprimer. Il y a une grande pudeur, mais du coup la foi se dit par ce qu'on chante.
Et ça, vous l'avez vraiment vécu, expérimenté. Ça vous a modelé en quelque sorte.
Oui, ça m'a modelé. Ça m'a donné un instrument d'expression de ma foi. Le lieu d'une chorale, par exemple, c'est un lieu formidable où finalement des tas de gens peuvent se retrouver d'horizons divers, chacun avec ses moyens plus ou moins importants, et tout le monde peut trouver sa place. Et c'est, je trouve, une belle image pour parler aussi de l'Église. Chacun a sa place avec ses moyens, quel qu'il soit.
Ça, c'était dans l'Hérault, à Lunel ?
Alors non, enfin, je suis née à Lunel, mais mon père était professeur de physique et il a été nommé en premier poste à Saint-Étienne. Et donc, c'est à Saint-Étienne que j'ai grandi de 3 ans à 19 ans, donc à la fois scolairement, musicalement, puisqu'on était, tous les enfants étaient au conservatoire, et voilà. Et puis, au niveau de l'église, c'était à Saint-Étienne.
Vous avez été baptisée à l'âge de 15 ans ?
Oui, oui, oui. C'était le choix de mes parents de laisser la liberté à leurs enfants de demander le baptême quand ils le souhaiteraient. Et donc, arriver au terme de mon catéchisme, entre guillemets, tel qu'on le pratique dans l'église protestante, eh bien, j'ai demandé le baptême.
Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous ?
C'était une confirmation, c'était une façon de dire aussi devant l'assemblée, parce que c'est le moment où, pendant le culte, on dit sa foi devant l'assemblée. On exprime pourquoi on demande le baptême, on dit, voilà, on choisit un texte biblique. Alors, je me souviens plus ce que c'était, je l'ai pas gardé par écrit. Mais voilà, c'était un moment fort où j'ai pu dire devant tout le monde, voilà, je choisis Dieu. Ce que je m'étais dit petite, je l'ai redit devant l'assemblée, là, cette fois-ci.
Vous le formalisiez, vous le confirmiez devant...
Devant l'assemblée.
L'assemblée. Mmh. Et ensuite, vous avez fait des études de théologie.
Oui, 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 oui.
Ça, c'est quand même un choix aussi assez... intéressant, peut-être radical. Vous aviez à peine 20 ans, c'est
ça ? Oui, oui. En fait, je voulais tout de suite faire des études de théologie après le bac, puisque ce choix de Dieu, dans mon adolescence, je me suis pas posé la question. En fait, il y avait une évidence au fait que je devais devenir pasteur. C'était de l'ordre de l'évidence, réellement. En CM2, voilà, on allait partir en 6e, l'instituteur demande « qu'est-ce que vous allez faire après ?» Moi, j'ai dit « je serai pasteur ». Voilà. Donc, il était très inquiet, il a presque convoqué mes parents pour... Ma mère l'a rassuré que c'était pas grave, c'était pas dangereux, c'était...
Mais, donc, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la vocation.
Oui, 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 oui. Oui, oui, tout à fait. Et donc, il y avait pour moi une évidence à entamer des études de théologie, mais à la faculté de Paris, où on fait la licence, on faisait la licence à ce moment-là, même toujours actuellement, eh bien, on prenait pas après le bac, parce que on pensait qu'il fallait avoir fait d'autres expériences avant de rentrer en fac de théo. Mais j'ai tellement insisté qu'ils m'ont pris l'année suivante, quand même.
Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous devenir pasteur à cette époque-là ? Vous étiez toute jeune.
Oui.
Comment est-ce que vous envisagiez cette mission ?
L'expérience d'église, de vie d'église que j'avais vécue à Saint-Étienne était très forte, était comme une famille, une véritable famille où chacun a sa place, enfant, adulte, personne âgée. Et cette expérience de famille où chacun a un regard bienveillant sur l'autre, je voulais absolument, en être acteur à ma façon. Et le travail des textes bibliques m'a toujours passionnée. C'est-à-dire que même enfant, j'écoutais vraiment la prédication du pasteur avec un grand intérêt. Dans ma tête, je décomposais, je disais, ah ben moi j'aurais pas dit ça, j'aurais peut-être dit autre chose. Donc j'avais vraiment cette recherche biblique qui me passionnait et j'avais envie d'aller plus loin, d'aller beaucoup plus loin. Oui.
Cette recherche biblique, elle s'inscrivait toujours dans ce questionnement existentiel dont vous avez parlé, que vous portiez déjà enfant. La vie, c'est quoi ? Les épreuves, pourquoi, si Dieu n'est pas là, quel sens ça peut avoir ?
Oui, Oui. C'est un aller-retour permanent, en fait, entre la vie quotidienne, les questions qui se posent à l'existence, dans sa relation aux autres, dans sa manière d'être au monde. Il y a cet aller-retour permanent. Et qu'est-ce que Dieu veut pour moi, ou qu'est-ce que l'existence de Dieu vient changer dans ma vie? Où est-ce que Dieu existe? Enfin voilà. Et c'est dans cet aller-retour. Pour moi, le pasteur, c'est la personne qui travaille ces questions. Et pour lui-même d'abord, parce que s'il se les pose pas, alors il ne devient pas pasteur. Pour lui-même d'abord, mais aussi pour accompagner les membres de la paroisse dans ces questions d'existence profonde.
Est-ce qu'il y a des réponses dans la Bible? Est-ce que la Bible, ce sont des réponses à toutes ces questions?
J'ai souvent l'habitude de dire à mes paroissiens, ne cherchez pas les réponses dans la Bible, mais cheminez avec les questions. En fait, souvent la Bible nous renvoie des questions à nos propres questions. Et de question en question, on approfondit les choses et on va un petit peu plus loin. Mais quand même, fondamentalement, il y a pour moi une réponse. Je dirais pas qu'il y a des réponses, mais pour moi, il y a une réponse fondamentale qui est la confiance que Dieu me fait. Moi, pas en tant que moi, personne, mais la confiance que Dieu fait à chaque être humain. Le fait que Dieu ait donné son Fils, Jésus-Christ, qu'il a fait venir dans l'humanité, c'est une preuve de confiance énorme dans l'être humain. Et à partir de ce don de Jésus, notre vie, tout à coup, a une nouvelle, dimension. Dieu nous a fait confiance et Dieu continue à nous faire confiance. Et je pense que cette confiance que Dieu nous fait, elle bouleverse absolument tous les domaines de notre existence. On nous fait confiance.
Quand vous avez fait vos études de théologie, vous avez aimé ça? Vous avez aimé découvrir la Bible, l'approfondir, travailler ces questions?
Oui.
Peut-être même échanger avec d'autres, enfin.
Bien sûr.
Batailler un peu sur certaines thématiques?
Absolument. Les études de théologie sont un lieu où on s'interpelle aussi entre étudiants, entre ceux qui. Enfin voilà, entre les différentes formes de convictions. Et donc c'est vrai que c'est des études passionnantes en dialogue. Je serais restée longtemps en études en fait, mais en même temps il y avait cet appel à être dans la vie de la communauté. Et c'est un lieu qui est pour moi tellement précieux que finalement j'ai pas tardé. J'ai fait mes 5 ans d'études obligatoires et puis je me suis présentée pour être pasteur.
Enfin.
Oui, enfin.
Vous étiez heureuse à ce moment-là?
Oui, très, oui, oui. Ouais.
Qu'est-ce que c'était pour vous? Un aboutissement ou le début de quelque chose?
Alors, pendant toutes les années d'enfance et d'adolescence, c'était mon objectif d'arriver là. Et en fait, j'ai tout de suite enchaîné le ministère pastoral sans... Je dirais pas, il n'y a pas eu de vide comme quand on arrive à quelque chose et puis on se dit ouf, on est arrivé. Non, c'est pas ce qui s'est passé parce que j'ai été nommée dans mon premier poste dans une église qui avait une couleur très charismatique. Il y a quelques paroisses dans notre église qui sont charismatiques. Et pour moi, c'était un grand choc parce que j'avais jamais rencontré ce type de spiritualité. Moi, j'avais une famille plutôt classique où on disait pas beaucoup les choses, très réservée, très et donc arriver dans une paroisse où les choses se disaient de façon assez
décomplexée.
Pour moi, c'était un choc.
Jusqu'à quel point ça vous a dérangé ou vous avez découvert en vous des choses insoupçonnées?
Alors oui, évidemment. Mais avant d'en arriver là, il y avait quand même tout un parcours de remise en question de toutes mes études. C'était un peu un séisme de découvrir une forme d'expression de la foi qui m'était complètement étrangère. Donc il m'a fallu quelques semaines, peut-être quelques mois, avant de me rendre compte que ces paroissiens étaient des frères et sœurs en Christ, extrêmement proches, au-delà des expressions. Et c'était très beau, c'était un très très beau passage dans cette paroisse. Ouais.
Donc vous avez gardé quelque chose en vous?
Ah oui, bien sûr. Oui. Ah oui.
témoin, présenté par Véronique Elzieux.
Ensuite, vous avez continué à être pasteur dans d'autres régions, dans d'autres paroisses, à chaque fois des choses très différentes.
Oui, parce qu'après cette petite paroisse qui était un petit village en Ardèche, je suis partie dans une paroisse de dissémination à Châtellerault, dans la Vienne. Donc là, il y avait 200 familles, mais sur un grand territoire, ça veut dire beaucoup de voitures, aller visiter les uns les autres. Et puis, en même temps, un ministère en hôpital, d'aumônier d'hôpital sur Poitiers.
Qui vous a beaucoup marqué ?
Oui. Parce que là, quand on est aumônier en hôpital, eh bien, on ouvre les portes des chambres sans savoir qui va être derrière, en fait. C'est un accord au niveau de l'hôpital. Chacun a un service attribué. Et donc, on frappe, on se présente. Puis si la personne veut parler, elle parle. Sinon, on se retire. Et donc, on est amené à rencontrer des gens de toute confession, de toute religion, des personnes athées qui ont envie de parler avec nous et qui parfois dans la souffrance sont aussi dans la provocation. Oui, si votre Dieu existait, etc. Et donc c'est un lieu extraordinaire de dialogue et d'écoute de ce que la personne en souffrance veut dire. Et oui, ça bouscule beaucoup.
Décapant quand même.
C'est très décapant. C'est très très décapant. Mais justement, on arrive du coup au cœur de la foi.
C'est-à-dire
qu'on abandonne tous les mots que l'on a appris, toutes les thèses, antithèses, synthèses, tout ça, ça
le
tombe.
Le prêt-à-penser, ouais. N'a plus rien à faire.
Non. On est dans une rencontre nue, je dirais, avec une personne qui nous interroge sur notre foi, nous. Voilà.
La vérité de ce qu'on est à ce moment-là, face à la souffrance, face à la maladie, les masques tombent.
Oui, tout à fait.
Et alors là encore, des réponses
Non, un cheminement,
un dialogue.
Un dialogue, pas des réponses à ce que la personne a pas à sa problématique, mais à un moment, elle m'interroge en tant que moi croyante. Et à ce moment-là, je dis, moi, voilà ce que je crois, voilà où je place ma confiance. Mais c'est moi, et moi je place ma confiance là. Si ça peut vous aider sur votre chemin, je vous le dis, mais je ne suis pas sur votre chemin.
Alors, où la placez-vous, votre confiance, face à quelqu'un qui est cloué sur un lit d'hôpital, qui est peut-être condamné ?
Moi, je lui dis, je crois que Dieu accompagne chacun et qu'il est présent à côté de cette personne. Mais je ne peux que le lui proposer. Après, voilà, la personne en fait ce qu'elle peut, ce qu'elle veut, c'est son choix.
Et, le mystère du mal, le mystère de la souffrance, c'est quelque chose...
Oui, bien sûr. C'est le mystère de la vie. C'est la question à laquelle il n'y a pas de réponse. Voilà, le Christ sur la croix lui-même est allé au bout. Et en fait, dans sa réponse sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y a à la fois la reconnaissance terrible du mal. Dieu, je vis ce moment de d'effroi comme l'abandon de Dieu. Et en même temps, il y a ce dialogue qui se poursuit avec Dieu, puisqu'il lui parle. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il est à côté, alors qu'on le ressent comme absent. Donc c'est, voilà, la situation du mal, c'est celle-ci. Dieu est absent et en même temps, on peut continuer le dialogue avec lui.
Qu'est-ce que vous avez appris là encore de cet accompagnement, de cette proximité avec les personnes en souffrance ? Vous leur avez apporté des choses, mais elles vous ont apporté...
Ah oui, bien sûr.
Quoi ?
Oui.
Exactement.
Quand on arrive en fin de vie, et qu'on sait qu'on est en fin de vie, on abandonne tout ce qui est encombrant, tout ce qui est accessoire, tout ce qui est inutile. Et on arrive vraiment au cœur des questions essentielles. Et dans ce dépouillement absolu, c'est là qu'on rencontre, je dirais, la force de vie, parce que la vie, elle est jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. On peut plaisanter, on peut rire jusqu'à la dernière minute de la vie.
Et, ça, vous l'avez
vécu ? Ah oui, je l'ai vécu.
Vécu ?
Absolument, absolument. Oui. Un monsieur que je rencontre qui me dit, voilà, le médecin, c'est formidable, le médecin vient de me dire que j'étais guérie. Et il éclate de rire et il dit, moi je sais bien que c'est ma dernière journée, demain je serai mort. Lui, il le savait dans sa chair, en fait. Et cette façon de, cet humour, quoi, devant les propos du médecin, c'était incroyable. Ça manifeste encore la force de la vie jusqu'au bout, en fait. Et c'était vrai, il est mort pendant la nuit. Donc voilà, il y a des expériences incroyables comme ça.
Alors quand on est, vous étiez une jeune femme, peut-être déjà avec des enfants.
Oui, j'avais déjà 4 enfants, oui.
Ouais. Vous rentrez à la maison le soir. Comment on fait cohabiter ou s'articuler ces expériences d'accompagnement d'un mourant? Et puis le soir, on rentre à la maison grouille de vie avec des petits.
Oui.
C'est ça la vie aussi.
Oui, c'est ça la vie. C'est ça la vie, et c'est parce que la vie grouille justement, parce qu'elle nous pousse, parce que elle nous empêche de nous arrêter, de nous apitoyer. De voilà, c'est ça qui nous tient en vie. Ouais, ouais.
Ensuite, vous avez continué votre parcours de pasteur dans l'Église réformée. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Être protestante?
Ah, ça c'est une question. Être protestante. Je dirais que pendant très longtemps, et peut-être même, je dirais pratiquement jusqu'en là, cette année 2017, on avait un peu trop l'habitude de dire on est protestant parce qu'on n'est pas catholique. Mais j'aimerais qu'on sorte de ça, et on est très nombreux à vouloir sortir de ça. C'est vrai qu'au départ, Luther a protesté de sa foi, d'où notre nom de protestant. Mais en fait, à l'époque, ça voulait dire qu'il attestait quelque chose. Il protestait pas contre, il voulait juste attester de ses convictions. Et donc aujourd'hui, si on garde ce terme de protestant, c'est pas tellement contre des catholiques, mais plus contre tout ce qui défigure l'être humain, contre ce qui défigure aussi peut-être l'amour de Dieu dans le monde. Voilà comment je voudrais l'entendre. Protestation pour l'homme et pour Dieu.
Qu'est-ce qui défigure l'être humain ?
Ce qui défigure l'être humain, c'est chaque fois que l'être humain est transformé de sujet en objet. Chaque fois qu'il devient une chose. Quand on veut l'acheter, quand on veut le vendre, enfin, quand on veut, quand on le défigure, quand il est traité. Vous savez, quand j'arrive de mon grand test et que j'arrive à la gare Saint-Lazare et que je vois devant certains hôtels très chics les voituriers qui nettoient les voitures pour qu'elles brillent, qu'elles soient nickel, et qu'à côté dans la rue il y a des gens qui dorment sur des matelas par terre et qui n'ont pas pris de douche depuis très longtemps. Je reste scandalisée par ça. Je reste scandalisée par le fait qu'on puisse soigner mieux des voitures que des êtres humains.
Il y a une protestation en vous.
Ah oui, c'est très violent. C'est très violent.
Et qu'est-ce qui défigure Dieu ? La même chose ?
Alors, non, c'est autre chose. Ce qui défigure Dieu, c'est chaque fois qu'on veut... Alors, vous allez me dire peut-être que c'est ce que je fais, je ne sais pas. Chaque fois qu'on parle en son nom, et qu'on dit « Dieu a dit que », et il faut faire ça parce que Dieu l'a dit. Pour moi, c'est l'intégrisme qui veut obliger les êtres humains à faire ça parce que, sous prétexte que Dieu l'aurait dit. Or, Dieu a choisi d'habiter parmi les humains. Dieu a dit, voilà, parce qu'il aime le monde. Et donc, il n'a pas du tout l'intention de mettre le monde en coupe réglée, comme certains croyants veulent le faire, mais il a choisi d'habiter dans le monde. Et donc tout discours qui veut parler à la place de Dieu me fait peur.
Et qu'est-ce qui permet de ne pas franchir cette limite? Parce que même quand on fait de la théologie, finalement, on prend un peu ce risque-là.
On prend ce risque, oui.
Qu'est-ce qui tient lieu de garde-fou.
Alors, pour nous chrétiens, et je ne me permets de parler que de nous, Luther a dit parler de Dieu sans passer par le Christ, c'est déjà, enfin c'est presque diabolique en fait. Hein. Donc je crois que quand on veut parler de Dieu, il faut qu'on passe par le Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. On regarde ce que le Christ a vécu, ce qu'il a dit, comment il a été dans sa vie. Et là, on trouve la juste image de Dieu. Si tant est que, voilà, il faut se préserver des images. Mais c'est par le Christ qu'on voit comment Dieu veut agir dans le monde.
Et toujours en restant dans ce questionnement dont vous avez parlé au début, jamais dans l'affirmation et puis les sentences définitives.
Ouais, jamais, jamais.
Ouais. Toujours la question.
Il y a un non-jugement. Il y a un non-jugement quand on regarde le Christ vivre, rencontrer les gens de son époque. Il y avait un non-jugement absolu sur les gens. Il les a accompagnés, il les a guéris, il les a consolés, mais il ne les a jamais jugés.
Alors, je vous demandais comment vous vous sentiez protestante et ce que ça signifie pour vous, tout de suite, vous avez fait le lien avec l'Église catholique. Le mouvement œcuménique, pour vous, c'est une option ou c'est quelque chose d'absolument central ?
Ça ne peut pas être une option parce que il n'y a qu'une Église. Voilà, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je construirai mon Église. Bon, mais il n'y en a qu'une. Il n'a pas dit je construirai des églises différentes où chacun pourra célébrer comme il l'entend. Non, il n'y a qu'une Église. Et vraiment, la volonté de Dieu, c'est que l'humanité soit rassemblée et pas divisée. Et que son Église soit une. Donc c'est pas une option, l'œcuménisme n'est pas une option, et même si l'être humain préfère toujours être avec ceux qui parlent comme lui, en fait, eh bien on doit passer au-delà de ça. C'est-à-dire que, bien sûr, moi j'ai plaisir à être dans un culte qui me ressemble, qui ressemble à ce que j'ai appris, qui a le langage de ce que j'aime et ce que je connais. Mais découvrir un autre langage, c'est là que je vois combien Dieu est mille fois au-delà de ce que je peux en comprendre. Quand je vois d'autres célébrer, quand je vois d'autres liturgies, quand je vois d'autres types de cultes, c'est là que je découvre que Dieu est bien au-delà de ce que je peux en comprendre.
L'unité est possible en dehors de l'uniformité ?
Eh bien, c'est un sacré pari. Voilà, ça c'est un sacré pari. Effectivement. Et c'est toujours la limite, en fait. Hein. C'est un chemin qui est très très étroit. Être uni, mais pas uniforme. Ça, c'est un sacré challenge. Ouais.
Où en est l'œcuménisme, selon vous, aujourd'hui, en France ? Vous hochez de la tête.
Oui, c'est pas très radiophonique. Je crois que il y a beaucoup d'impatience, en fait, dans les paroisses. Il y a beaucoup d'impatience d'avancer, d'aller plus loin. On fait beaucoup de choses ensemble, et notamment des choses pratiques, des choses concrètes. Par exemple, au niveau des entraides, au niveau de l'accueil des exilés, au niveau de... Voilà, toutes ces choses concrètes, on fait tellement de choses ensemble. Et en même temps, on ne peut pas communier autour de la même table. Et ça reste extrêmement difficile. Ça reste vraiment une souffrance. Alors, pour toutes les familles mixtes, comme on disait à une époque, donc catholiques, protestants, où les conjoints, bien sûr, sont acceptés, accueillis, mais bon, voilà, c'est toujours...
À peine toléré.
Mais quand on a une célébration œcuménique et qu'on ne peut pas partager l'Eucharistie, c'est toujours une souffrance pour nous, protestants.
Pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite, d'après vous ? Il y a eu un grand élan à un moment donné, dans les années 80, 90, 2000 même, et puis c'est comme si, hop, tout d'un coup, il y avait eu un coup de frein.
Oui, parce que ce qui nous échappe, nous protestants qui n'avons pas une église mondiale, hein, on n'en a que des églises nationales, c'est que l'église catholique est mondiale, justement, et que du coup, avancer tous ensemble au plan mondial, c'est quelque chose d'extrêmement long, c'est un pari.
Il y a une inertie.
Oui, mais c'est pas seulement une question d'inertie, c'est aussi qu'on ne veut pas, et je le comprends très bien, on ne veut pas faire tomber les plus petits, comme on dit. Hein. C'est-à-dire qu'il faut vraiment attendre que tout le monde soit au même pas, que tout le monde soit prêt à faire un pas pour avancer. Mais évidemment, que ce soit en Afrique ou en Amérique, Amérique du Sud, du Nord, on voit bien que les civilisations, les cultures sont pas les mêmes. Et donc, comment faire un pas tous ensemble avec toutes ces cultures? Donc, je comprends très bien les grandes difficultés de l'Église catholique d'avancer. Mais voilà, en France, en tout cas, pour nous, dans les paroisses, c'est beaucoup de peine, en fait, d'attendre. On trouve que ça va beaucoup trop lentement.
Vous avez parlé d'impatience.
Oui.
Est-ce que vous pensez que les relations justement œcuméniques entre églises chrétiennes ne sont pas un peu passées de mode dans un contexte où c'est l'interreligieux et notamment le dialogue islamo-chrétien qui est sans cesse évoqué actuellement à cause du contexte?
Oui. Et nos théologiens d'ailleurs sont provoqués sur ces questions-là, sont invités à travailler.
Chrétiens.
Oui, chrétien.
Autant catholique que protestant.
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Donc, effectivement, on a un peu l'impression, au niveau des paroisses, d'ailleurs, que c'est qu'on est très, comment dire, sollicité sur de nombreux fronts. Il faut qu'on réfléchisse à la fois sur nos relations avec l'islam, comment cheminer ensemble. Et de l'autre côté, il faut aussi qu'on travaille sur nos relations interchrétiens. Donc. Parfois, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Et ça explique aussi un certain désarroi dans les paroisses, des croyants, un certain désarroi des croyants, et un repli aussi, un repli sur soi, un repli parce que le dialogue, c'est exigeant. Ça exige de se positionner, de bien pouvoir formuler ce en quoi on croit, et de ne pas avoir peur que la conviction de l'autre nous remettre en question, parce qu'elle nous remet en question, et c'est normal. Mais cette remise en question fait peur. Donc, il peut y avoir un repli sur soi aussi dans les paroisses.
De quoi est-ce qu'on a peur?
On a peur que, finalement, que les convictions de l'autre nous emmènent à un endroit où on voudrait pas aller, parce qu'on connaît pas, parce que l'avenir, parce que le chemin qu'on n'a jamais emprunté nous fait peur de toute façon. Et donc oser aller sur ce chemin-là sans savoir ce qui sera devant, c'est inquiétant.
Vous, à titre personnel, Emmanuel Sebold, vous avez peur?
Non. Je suis très prétentieuse là quand je dis ça.
Pourquoi vous n'avez pas peur?
Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que j'ai l'impression que j'ai eu assez peur pendant de nombreuses années et que j'ai fermé cette parenthèse là parce que je sais que je ne m'appuie pas sur moi, mais que je m'appuie sur une force qui est à l'extérieur de moi, qui est un rocher qui est à l'extérieur de moi, que ma confiance est en Dieu et pas en moi. Et donc c'est pas grave, quoi. Je peux être ébranlée, c'est pas grave.
Ça tient.
Parce que même si je suis par terre ou si je suis au fond du gouffre, c'est pas grave parce que sous mes pieds, il y a un rocher qui est solide. Et donc je peux, voilà, j'ai pas peur, effectivement.
Donc dans le contexte mondial, disons, dans lequel on est aujourd'hui, pour vous, il y a vraiment des raisons d'espérer et de surtout ne pas céder à la peur, de ne pas céder à la panique et à la terreur.
Oui. De tout temps, en fait, les hommes sont passés par des moments comme ça. J'imagine, mes grands-parents, vivant la Deuxième Guerre mondiale, ont dû passer par des moments terribles de terreur. Mes grands-parents qui étaient en Algérie, qui ont dû quitter leur village, leur ville qu'ils aimaient, abandonner tout ce qu'ils avaient là-bas. Ils sont passés par des moments de terreur.
Vos ancêtres protestants, certainement.
Et aussi. Évidemment, mes ancêtres protestants aussi. Donc,
c'est l'histoire de l'humanité, ça.
Oui, oui, oui. Et du coup, il ne faut pas penser qu'on vit les choses pour la première fois, hein, que c'est nouveau, que c'est quelque chose de complètement révolutionnaire, épouvantablement révolutionnaire. Non, non, non. Je me souviens, quand il y avait les attentats dans les années 85-86 à Paris, ma sœur aînée venait prendre des cours de violoncelle à Paris et on était accrochés à notre poste de radio parce qu'on entendait qu'il y avait une bombe dans tel métro, etc. On a déjà connu ça. Il y a rien de neuf sous le soleil, hein, je veux dire, c'est aussi un texte de l'Ancien Testament, rien de nouveau sous le soleil. Mais retraverser à chaque fois cette réalité du mal, voilà, cette expérience pour l'être humain est toujours une expérience terrible. Mais Dieu est présent, c'est ma confiance.
Qu'est-ce que les églises, de manière générale, peuvent apporter dans la société d'aujourd'hui? En quoi est-ce qu'elles peuvent contribuer au lien social, à la cohésion sociale, justement à apporter un autre discours que celui de la peur?
Justement, en disant que tout être humain est imparfait, tout être humain est voilà, limité, etc., mais qu'on est tous accueillis et qu'on a tous droit à la parole et qu'on peut apprendre à se dire les choses dans le respect, dans la reconnaissance de ses propres limites. Une église, une communauté locale exerce vraiment son rôle quand elle est un lieu d'accueil de chacun, où chacun peut venir dire ce qu'il a sur le cœur, où chacun est écouté et accueilli pour ce qu'il est. Et quand la communauté joue vraiment ce rôle, quand elle a ses portes grandes ouvertes, et quand on peut rentrer, quand c'est un lieu de débat entre chrétiens différents, et puis avec d'autres religions, eh bien là, elle est vraiment signe. Au milieu de la cité, ou au milieu du village, ou au milieu de la ville, elle est vraiment signe qu'on peut se dire les choses autrement.
Est-ce qu'il faut faire plus de bruit quand on est chrétien, pour manifester qu'on est là, pour affirmer peut-être aussi une identité, affirmer une présence?
Je dirais pas forcément oui, pas forcément, parce que l'écoute de l'autre ne fait pas de bruit en fait. Donc je parlerai plus de rayonnement que de bruit. Je parlerai plus d'ouverture que d'affirmation. Je parlerai plus de provocation au dialogue, plus que d'affirmation de ses convictions. Voilà. C'est délicat. Dire les choses sans blesser l'autre, dire ses convictions sans passer pour quelqu'un qui veut imposer. Voilà. Donc c'est un chemin qui est là aussi ténu.
Alors le 26 mai 2017. Vous avez été élue présidente de l'Église protestante unie de France dans le cadre d'un synode.
Oui.
Juste pour situer les choses, en quoi est-ce que ça consiste et comment se passe cette élection?
Alors, un synode, nous tenons un synode national chaque année. Il y a toujours deux temps. Il y a un synode dans chaque région au mois de novembre et au mois de mai suivant, un synode national avec des délégués de chaque région qui sont des délégués des églises locales. Voilà. Donc c'est notre fonctionnement. Tous les ans, on a un synode régional et national. Et donc, le synode national, entre deux sessions, il est gouverné par un conseil. Ce conseil est élu par le synode.
Pour 4 ans ?
Pour 4 ans. Et une fois que ce conseil est élu, il élit son président, son trésorier, son secrétaire. C'est comme toute association. Alors, on ne met pas des candidats comme ça en concurrence. Avant l'élection, il y a un discernement qui est fait par une équipe qui est nommée par le conseil sortant. Et donc, cette équipe réfléchit, prie, discerne les personnes à appeler et notamment la personne qui va être proposée à la présidence. Et c'est le travail qui a été fait l'année précédente. Et une fois l'équipe ayant travaillé, j'ai été contactée pour savoir si j'acceptais de me rendre disponible pour cette élection. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, effectivement, au synode, il y a une liste de noms qui est proposée. Le synode vote sur cette liste et ensuite le conseil m'a élu.
The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil.
Grand témoin, RCF.
Donc, c'est à la fois quelque chose qui n'est pas une surprise énorme.
Effectivement.
Mais ça aurait pu ne pas être vous.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, effectivement, il y a le discernement
vous
de l'équipe.
Vous saviez que vous étiez dans la shortlist.
J'étais, oui, dans la mesure où j'étais le seul nom qui avait circulé aussi en disant, voilà, cette personne est pressentie pour être présidente. Voilà.
Vous avez, vous aussi, pris le temps de discerner avant de donner votre accord cette éventuelle disponibilité.
Bien sûr, oui. On m'a donné un mois quand même de réflexion. Il fallait bien ça, oui. Ouais.
Ça a consisté en quoi, ce discernement ?
Tout d'abord, d'essayer de comprendre... on comprend pas l'appel quand on le reçoit. Moi, j'avais jamais imaginé d'être à ce poste, donc ça m'a pas effleuré une seule minute. Et quand le président sortant m'a demandé de venir me voir avec mon mari, parce que quand le président vous demande une visite, vous propose une visite, il y a toujours quelque chose, il veut demander quelque chose. Donc on avait passé avec mon mari en revue tout ce qu'il était susceptible de nous demander, mais on n'a pas pensé une seule fois. À ce type de responsabilité. Voilà. Donc j'étais d'abord très surprise. Alors le premier temps, c'est d'abord de digérer la surprise et l'émotion que ça procure. Parce que les présidents dont j'ai mémoire sont des gens que j'ai admirés toujours, pour lesquels j'ai eu un grand respect.
Par exemple ?
Mon prédécesseur direct, Laurent Schlumberger, avant lui Marcel Manoël et avant lui Michel Bertrand, c'était trois pasteurs qui pour moi ont compté dans ma vie. Et donc j'avais beaucoup de mal à imaginer que je prendrais la suite de ces trois personnages qui pour moi sont tout à fait importants. Donc il faut d'abord digérer la surprise et puis ensuite consulter. Alors pas beaucoup de gens, mais consulter des collègues proches, des amis dont on sait qu'ils vont nous dire la vérité. Et donc leur demander si de leur point de vue le discernement est juste. Et essayer de m'éclairer un peu sur les raisons de ce choix. Voilà. Donc j'ai fait quelques consultations et pris le temps de la prière et d'essayer de comprendre aussi si je disais non, pourquoi, et si je disais oui, pourquoi. Voilà.
Et ça vous a semblé juste de dire oui, en tout cas de vous rendre disponible?
Oui, j'ai senti une grande paix devant cette décision, et c'est une grande paix au moment où je me suis dit intérieurement, je suis prête à accepter. Voilà, ça a apaisé beaucoup les choses.
Et au moment où vous avez su que c'était donc vous qui étiez élu, oui. Qu'est-ce qui s'est passé en vous ?
J'ai pas eu beaucoup le temps de réfléchir parce que je dois dire que très vite, ça s'est passé le soir vers 23h. Là, sur le coup, j'étais bien fatiguée.
C'était à Lille.
Oui, c'était à Lille. Mais dès le lendemain matin, le synode a été envahi par les journalistes. Et donc, j'ai plus tellement le temps de réfléchir non plus. Il a fallu faire face tout de suite et être prête à répondre. Et ce qui était extraordinaire, c'est ça, c'était le samedi, le dimanche et le lundi, j'ai fait ma valise et je suis arrivée à Paris à 9h15 pour prendre mes fonctions.
Vous vivez à Besançon.
Oui, oui, oui. Et c'était une grande paix, voilà. C'est ce que j'ai ressenti comme vraiment Dieu conduit.
Alors, ce qui a attiré les journalistes, c'est évidemment l'élection du nouveau président, de la nouvelle présidente de l'EPUF, mais c'est surtout le fait que ce soit une nouvelle présidente, une femme, parce que ça, c'est une première.
Oui.
Quel signe est-ce que vous y voyez ?
Alors, au départ, j'ai dit beaucoup, c'est quelque chose de banal. Alors, on m'a dit, non, c'est pas banal. Bon, j'ai dit, d'accord, c'est pas banal, c'est normal. En fait, pour notre Église, c'est très cohérent. Les femmes sont pasteurs depuis le synode de 1965 et 66 qui a confirmé le choix. Mais il y avait des femmes pasteurs depuis la Deuxième Guerre. Simplement, c'était des exceptions, c'était à chaque fois une dérogation. Bon, d'accord, il fallait qu'elles restent célibataires, etc. Donc, moi, quand je suis née en 70, les femmes pasteurs s'étaient déjà acceptées dans mon Église. Donc, pour moi, c'était normal. Mais mes collègues, un tout petit peu plus âgés, m'ont écrit en me disant « Ne dis pas que c'est normal, parce que ça a été une lutte pour nous. » Donc, j'entends ça. Et puis aussi, ne disons pas que c'est normal, parce que dans la société française, c'est encore pas si évident que ça. Alors, si on regarde les églises, là, c'est une exception. Tout simplement. La semaine dernière, j'avais une rencontre avec les présidents de toutes les églises qui sont membres de la Fédération protestante. Eh bien, en m'asseyant dans ce cénacle, j'ai bien compris que j'étais l'exception.
Vous étiez la seule femme.
J'étais la seule femme, oui. Donc, bien, je suis la seule femme présidente d'une église membre de la Fédération protestante.
Donc, c'est quand même un signe très fort.
Oui, oui. Et d'autant plus fort que j'entendais là mes collègues, donc autres présidents d'église, disant « quand même, nous les protestants, c'est chouette », alors qu'eux-mêmes n'ont pas tous des femmes pasteurs dans leurs églises, mais ils le vivaient quand même comme quelque chose de prophétique, donc j'ai trouvé ça sympa.
Vous le prenez comme une responsabilité, y compris de ce côté-là, y compris du côté de ce que ça représente pour les femmes, ou vous n'y pensez pas ?
Alors j'essaye de ne pas y penser, de ne pas me mettre trop la pression, mais surtout... En fait, mon enjeu est pas là, quoi. Mes enjeux sont pas là. Mes enjeux sont vraiment de comment conduire mon église, dans quelle direction aller, quel choix conduire avec le Conseil national. Donc, je pense plus à ça. Je me dis que si mon ministère se passe bien, ben, ce sera tout gagné aussi pour les femmes. Mais effectivement, c'est pas du tout ce que j'ai en priorité.
On va revenir sur l'orientation que vous voulez donner à votre église dans un instant, mais sur le plan familial, alors dans l'église catholique, on s'inquiète toujours beaucoup de la disponibilité des prêtres, notamment, qui s'ils avaient une famille, le seraient a priori beaucoup moins. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Vous êtes mariée, vous avez en tout 7 enfants, parce qu'il s'agit d'une famille recomposée.
Oui, c'est ça.
4 enfants à vous, 3 enfants à votre mari. Oui. De quoi s'occuper quand même ? Même si vos enfants sont relativement grands, peut-être.
La dernière a 15 ans. Mais effectivement, de quoi s'occuper. Et puis, il faut suivre aussi ce qu'ils font. Mais j'ai parlé souvent avec des paroissiens catholiques de cette question-là. Mais je leur dis, il y a beaucoup de travaux, enfin de dans les
engagements.
Il y a beaucoup d'engagements effectivement dans lesquels, par exemple, quand on est médecin ou quand on est, enfin, on peut avoir des horaires de travail qui sont considérables. Même quand on est journaliste, on n'est pas toujours, c'est pas cadré, c'est pas. Donc c'est un ministère. C'est vrai qu'il nous prend complètement parce qu'il nous touche à notre identité, à ce qui est essentiel dans notre vie.
C'est pas juste un métier.
C'est pas juste un métier, non. Mais malgré tout, je crois que vivre la vie ordinaire et normale de tout un chacun nous permet aussi d'être à l'écoute, peut-être différemment. Je dis pas qu'il faut avoir tout vécu, c'est idiot de dire ça, on vit jamais tout. Mais on sait ce que vivent nos paroissiens. On sait la pression du travail, on sait l'équilibre difficile à tenir au niveau de la famille, etc. On vit ça aussi. Et donc, si on réussit à trouver le bon équilibre pour nous, on est aussi signe que eux peuvent trouver le bon équilibre pour eux.
Pour conclure cet entretien, Emmanuel Sebold, l'orientation alors que vous voulez essayer de donner à cette Église réformée de France, enfin à l'EPUF, Église protestante unie de France.
Ouais. On va poursuivre la dynamique qui a été engagée par mon prédécesseur d'une Église de témoins. En fait, témoigner de ce que nous croyons, simplement, témoigner de façon avec des mots de tous les jours. Je crois que c'est vraiment fondamental pour que notre petite église sorte de ses de ses murs. Et puis recruter des nouveaux pasteurs parce qu'on va en manquer. Travailler avec la jeunesse, voilà, c'est les pistes essentielles que je vois devant nous.
Vous avez 4 ans pour ça.
Oui, c'est ça. J'ai 4 ans.
Entouré évidemment
d'un conseil de 20 personnes. Oui.
Quel est votre lieu ressource ?
Ah, mon lieu ressource, c'est les cantates de Bach.
C'est ça qui va vous aider, entre autres.
Oui, oui, tout à fait.
Un très grand merci, Emmanuel Sebold, d'avoir accepté cette invitation.
Merci.
Merci à vous.